Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir un signe.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Une journée particulière, c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Pendant une heure, un invité revient sur un jour important de sa vie. Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Braic. Bonjour Nicolas Braic.
Bonjour.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier, sur France Inter.
Nicolas Braic, vous êtes éleveur de cochonnets, de petits cochons.
C'est ça.
C'est ça. Forestier.
Voilà.
Et inventeur d'une machine qui pourrait changer notre avenir. Vous avez choisi Nicolas Braic comme journée particulière le 22 décembre 2009. Ce jour-là, vous avez eu une révélation en vous promenant dans le Larzac. En 2009, vous étiez et vous êtes toujours éleveur de cochons, un éleveur de cochons pas comme les autres.
Il y a quelques mois, nous vous avions présenté sur ce plateau un hippopotame. Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous parler de ses lointains cousins, les suidés. Car aussi étrange que cela puisse paraître, notre bon vieux cochon domestique, ainsi que son grand-père, le sanglier, s'il n'appartient pas exactement à la même famille que l'hippopotame, est, comme lui, un pachyderme, comme lui, et également comme le pécari, le phacochère et le potamochère. C'est donc une très grande famille dont vont vous entretenir aujourd'hui Jacqueline Porcher et Pierre Pfeffer, une famille dont, naturellement, nous n'allons pas exclure les trois petits cochons immortalisés par Walt Disney.
C'était une archive des années 60, une archivina des années 60 qui présentait le cochon. Je disais, Nicolas Braic, que vous n'étiez pas un éleveur de cochons comme les autres parce qu'au départ, rien ne vous prédisposait à devenir éleveur de cochons. Vous avez un parcours, vous avez commencé, en quelques mots, dites-moi, vous avez commencé par des études scientifiques.
Voilà, ensuite, j'ai étudié aussi à la fac de sciences de Montpellier, ouais, en maths informatique. Et puis, j'ai eu un parcours un peu particulier où je me suis rendu compte que la sédentarité aurait été néfaste dans mon cas. Et donc, je suis parti vers une recherche du dépassement de soi. Et donc, j'ai eu une très courte carrière dans les fusiliers marins commando de la marine.
Ouais.
Et qui, en fait, m'a permis de me surpasser et d'apprendre, en fait, l'abnégation. Et suite à ça, je souhaitais vraiment revenir à la terre. Et j'étais très proche des chevaux, originaire d'Uzès, avec un parcours équestre qui m'avait permis de découvrir plein d'activités équestres. Donc j'avais pensé avoir un ranch.
Ouais.
Et en fait, cette idée était un peu utopique parce que vivre, des chevaux, c'est très compliqué. Et à la suite de ma formation équestre, j'ai proposé un projet d'élevage de cochons bio plein air en extensif.
Et c'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez mis en place. Vous avez mis du temps à trouver un lieu.
Très compliqué. En fait, l'espace, c'est quelque chose qui est de plus en plus précieux sur cette planète et qui est dur à mobiliser. Hein. Donc moi, je cherchais minimum 100 hectares. Alors ça fait 100 terrains de football.
C'est très bien de le dire comme ça.
Voilà, d'un seul tenant.
Ouais.
Ça paraît colossal, mais c'était offrir le maximum d'espace à des animaux. Pour moi, c'est gage de qualité, de durabilité.
Vous voulez qu'ils vivent librement dans la nature, vos cochons.
J'avais vraiment remarqué, ayant un papa qui était gastronome, qui est toujours gastronome.
Un papa psychiatre.
Oui, et qui... Le cochon n'était pas à sa place, c'est toujours une viande un petit peu rabaissée comme quelque chose d'un droit à la protéine. Et je me suis dit, bon voilà, il y a peut-être quelque chose à faire, est-ce que je peux apporter ma pierre? Alors un grand-père éleveur de cochons en Lorraine aussi, qui était vétérinaire porcin, qui avait fait l'école de Rambouillet.
Ouais.
Et puis un autre grand-père donc du côté du papa, celui-là qui est boucher charcutier à Uzès. Donc un lien fort à la viande qui a sauté une génération. Et donc un lien avec cet animal qui est très peu connu et malheureusement trop mis dans des cases un petit
Alors
peu.
Justement, parlez-moi des cochons, parce que vous les aimez, vos cochons.
Ah oui,
hein, vous les aimez.
Ils sont fantastiques. ce sont des vrais compagnons de vie. Ils ont tous une attitude, un comportement extrêmement troublant. Quand vous regardez l'œil d'un cochon, vous captez l'intelligence. Un cochon adulte a l'intelligence d'un enfant de 8 ans.
Ouais.
Donc vous vous rendez compte, il peut résoudre des problèmes, il peut vraiment...
Non, je ne me rends pas compte du tout, justement. Ça veut dire quoi?
Alors bon, j'ai une petite anecdote jours, très ouais. rigolote. J'ai un cochon mâle adulte. À une certaine époque, je cloisonnais encore plus mes parcelles. Hein. Maintenant, j'ai tous les âges mélangés sur des grands espaces avec des maisons comme des yourtes hein, en cercle, comme des petits villages. Et avant, donc, je séparais parce qu'on m'avait appris ça dans le cursus agricole. Et je me suis aperçu qu'il y avait des cochons qui avaient compris que s'ils trouvaient donc des vieux morceaux de charrue ou des barres de fer et qu'ils posaient sur les fils, ils coupaient l'électricité pour passer de parc en parc. Mais à tel point que donc un vérin, un mâle adulte, avait compris la technique et il avait sa barre de fer qu'il cachait dans des fourrés
non.
pour changer de parc et il la récupérait et il recommençait. Donc c'est vraiment très troublant. Quand vous voyez ça, vous n'y croyez pas, mais quand vous le voyez de vos yeux, vous vous dites là on est face à des animaux qu'on ne comprend pas et qu'on n'a pas cerné. Donc c'est vraiment important de dire à l'ensemble de la population que cet animal mérite qu'on ait un peu plus attention et qu'on ne le considère pas uniquement comme un sac de protéines.
Et vous avez des vraies relations avec vos cochons ?
Ah oui, donc il y a ouais. tous mes cochons mâles adultes ont le prénom d'un chef.
Ah oui, alors ça me fait beaucoup rire. D'un grand chef, hein,
voilà.
d'un grand chef genre Ducasse,
voilà,
Bocuse.
Là actuellement il y a Guy Savoie.
Mais ils répondent à leur prénom, vos cochons ?
Oui, bien sûr. C'est ça qui est étonnant.
C'est-à-dire
là,
que
maintenant,
quand
j'en
vous
ai un qui s'appelle Mathieu ouais. Delozin, un chef de Gignac qui est un ami. Et en fait, Mathieu connaît son prénom et quand il fait une bêtise, je le gronde, je l'appelle Mathieu, il sait que c'est lui. Comme un chien, il faut raisonner le cochon, même plus intelligent qu'un chien. Il y a eu pas mal d'études, on est proche du dauphin, enfin entre le dauphin et le...
Avec le cochon ?
Oui, on fait partie des animaux les plus intelligents sur cette planète.
Et vous dites que le cochon connaît sa force, que
ah
c'est
oui.
aussi pour ça que vous les aimez.
Oui.
Ça veut dire quoi ?
Alors connaître sa force, ça veut dire qu'à un moment, si vous n'avez pas une attitude d'éleveur digne et que vous vous amusez à faire quelque chose qui n'est pas acceptable pour lui,
ouais.
à un moment dans sa vie, il sait qu'il peut vous tuer.
Il peut vraiment vous tuer ?
Ah oui. Un cochon adulte de 300 à 400 kilos a la force d'un taureau d'une tonne, donc c'est colossal. Je les ai vus remuer des pierres de plusieurs tonnes juste pour trouver quelques racines ou insectes sous les pierres. Donc vous avez vraiment des animaux qui sont, on va dire, hors du commun dans tous les sens du terme, et des machines à survivre. C'est-à-dire que c'est des animaux qui ne subissent pas, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils vont s'adapter au plus haut point. Ils ont cette faculté de vie permanente. Moi, c'est très troublant. J'ai vu beaucoup d'animaux dans des conditions difficiles jeter l'éponge. Le cochon, jamais. Jamais, 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 jamais.
Il lâche pas.
Jamais.
Il est comme vous. Un peu.
Voilà, je pense qu'on se ressemble de ce côté-là.
Nicolas Braic, donc vous êtes un éleveur de cochons. En 2009, vous étiez déjà un éleveur de cochons. Mais le 22 décembre 2009, vous êtes devenu encore un autre. Et cette année-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, on écoutait Iggy Pop. King of Dogs.
Your throat if you move on me. I'm sovereign, 'cause I'm the king of the dogs. Hold out life, we'll kill you for the cancer. I don't even own a pair of pants. I'm a dancer, baby. I'm deadly, 'cause I'm the king.
king of the dogs. Smell the things that you cannot smell. I'm deadly. I'm the king of the dogs.
Vous avez entendu le chien à la fin oui. du disque. Une journée particulière, ça continue jusqu'à 15h et c'est donc Nicolas Braik qui est notre invité aujourd'hui. Nicolas Braik, vous avez donc choisi comme journée particulière le 22 décembre 2009. Ce jour-là, vous avez eu une révélation en vous promenant dans le Larzac.
Par 44 degrés de latitude et 3 degrés et demi de longitude est, se trouve en France une terre presque inconnue, faite de grands espaces, de vent, de pierre et de ciel. Autrefois paradis des loups et des bêtes imaginaires et fantastiques.
Alors nous nous trouvons ici au pied du Causse du Larzac. Le Larzac, vaste plateau calcaire, le plus grand de la série des Grands Causses. Il mesure environ 1000 km carrés. Il s'étend de l'Audève à Millau et en largeur de Nantes à Saint-Rome-de-Cernon.
Nicolas Braik, c'était une archive de 1969, là, celle qui craquait au début. Est-ce que vous pouvez me décrire le paysage dans lequel vous vivez ?
On est sur un Larzac, certes ouvert, plein de cailloux de ciel, mais extrêmement embroussaillé. Il y a eu 100 ans de non utilisation de ces espaces et on a eu une nature qui a repris ses droits.
Ouais.
Donc on est vraiment sur quelque chose où on voit la trace de l'homme, ouais. les murettes, on voit les terrasses, mais tout ça est recouvert par une épaisse densité de végétation et ça laisse un sentiment d'abandon, vraiment comme si l'homme avait déserté cette zone et s'était un petit peu perdu dans autre chose, alors qu'ici il y a vraiment un sens.
Il y a du sens à vivre là.
Tout à fait. Ouais.
Pourtant, le climat est rude, non ?
Sur le Larzac, il y a des conditions climatiques qui vont vers tous les extrêmes.
C'est-à-dire qu'il fait très froid ?
Très froid, très chaud, beaucoup de vent, beaucoup de pluie.
Un vent qui rend dingue. Hein.
Voilà. Et on a des très très belles périodes, il y a aucun souci, c'est magnifique, on est par plus de 280 jours d'ensoleillement par an. Mais c'est vrai que ce pays vous forge. Mais surtout, une, on va dire, ce sentiment de rester humble face aux éléments. J'ai vu des cabanes de cochons s'envoler, parce que des mini-tornades, ça existe en France.
Ouais.
Et ça vous laisse un petit peu sans voix, hein, parce que vous vous dites « je suis bien peu de choses ».
Et alors, je pense que vous vous l'êtes dit en décembre 2009, Nicolas Braik, que vous étiez bien peu de choses, parce que vous attendiez la naissance d'un de vos enfants. En décembre 2009, c'était imminent. Mmh. Et puis, il y a eu une énorme tempête.
Mmh.
Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'était la veille de votre journée particulière. Qu'est-ce qui s'est passé au juste ?
Alors, on attendait ce petit bébé. On avait fait ce choix de l'accueillir donc dans ce village, sur le Larzac. Et il y a eu un temps extrêmement étonnant. Il a commencé à faire nuit en plein jour. Et avec beaucoup de brume, à tel point que la sage-femme a eu du retard et nous avons mis avec mon épouse cet enfant au monde ensemble.
La sage-femme n'a pas eu le temps de venir.
Voilà, elle est arrivée bien une heure après. Et
vous avez paniqué ?
Absolument pas.
Mais ça ne m'étonne pas de vous. C'est la question que je voulais vous poser, mais en même temps j'étais sûre de votre réponse.
Alors bon, il faut faire attention à l'amalgame, mais c'est vrai que ce que m'avait dit la sage-femme, je ne suis absolument pas inquiète parce que votre expérience de naisseur, parce que lorsqu'on met des petits cochons au monde,
on
fait naître beaucoup, beaucoup de petits cochons, vous permettra de savoir et d'avoir des signaux, et sans comparaison possible, c'est vrai que toutes les textures du placenta et autres sont les mêmes, hein.
Mmh.
Donc c'est extrêmement troublant aussi.
Vous aviez ça en tête sans arrêt.
En fait, je n'ai pas été surpris par la chose, voilà. Et donc ce petit bébé est venu dans mes bras et je suis le premier à l'avoir accueilli, cette petite Naïs, sans rabaisser les autres naissances parce qu'on a eu beaucoup de chance avec nos trois filles. Celle-ci a été vraiment quelque chose de comme un ancrage supplémentaire.
J'imagine. Alors le lendemain de la naissance de cette petite Naïs, c'est le 22 décembre 2009, c'est votre journée particulière.
Tout à fait.
Vous vous réveillez et là vous décidez d'aller vous promener.
Tout à fait. Et donc je suis allé sur le Pleuchagut, qui est en fait une petite montagne, ouais. qui fait presque 900 mètres, ouais. et qui est couverte de buis. Et en marchant, je me revois étendre les bras et toucher les buis, la cime des buis, sous mes mains. Et je me suis arrêté et je me suis dit, tout est là. Tout est là.
Et vous parliez de quoi en disant tout est là?
En fait, j'ai eu ce sentiment d'avoir accès à, on va dire, à une information qui a été oubliée et d'être en quelque sorte éclairé mm-hmm. pour faire quelque chose avec cette essence qui est sur le Larzac.
Avec le buis.
Voilà, qui est
qui a recouvert,
Plus de 80% des surfaces et plus personne ne sait quoi faire. Hein. On est dans une situation particulière.
Mais alors ce jour-là, ce 22 décembre 2009, donc vous marchez, vous voyez ce buis, mm-hmm. que pourtant vous viviez dedans depuis déjà plusieurs années. Et c'est comme une révélation, c'est pour ça que vous dites que vous êtes comme éclairé.
Tout à fait.
Alors, donc, tout est là, c'est-à-dire que ce buis
en fait,
peut servir à autre chose.
J'ai eu ce sentiment que le soleil, on va dire, envoyait un maximum d'énergie à cette plante et que cette plante pouvait restituer cette énergie. On avait un temps magnifique de d'hiver.
Après la tempête.
Voilà. Et soleil, buis qui reste en feuilles l'hiver. Hein. J'ai vu cette capacité de panneau solaire, en fait. Et je me suis dit, mais quel est le chaînon manquant? Voilà.
Alors, il faut dire, Nicolas Braille, que juste avant de partir vous promener, vous aviez lu un article que vous avez déposé à un voisin, mm-hmm. un article sur Jean Pin, un inventeur et autodidacte qui avait découvert dans les années 70 une technique révolutionnaire de fabrication de compost à partir de broussailles.
Alors, Jean Pin, après avoir broyé toutes ces broussailles, voici ce que vous obtenez. Qu'est-ce que c'est exactement, ce mélange?
Il s'agit de broyés de broussailles destinés au compostage.
Qu'est-ce que c'est le compostage?
Le compostage, c'est humidifier une matière végétale au préalable broyée, aux fins d'obtenir un engrais agricole.
Et ça, est-ce que c'est déjà un engrais naturel ou pas?
Pas encore. Il deviendra un engrais après avoir subi une phase assez prolongée de fermentation aérobie.
Ici, nous sommes en Provence, on a broyé des broussailles de Provence, mais est-ce qu'on peut le faire, par exemple, en Bretagne avec de la lande ou dans le nord de la France avec d'autres broussailles?
Bien entendu, sous le vocable broussaille, on sous-entend tout végétal sauvage. Aux quatre coins du monde, sur l'ensemble de notre planète, tout végétal est de l'humus en puissance.
Et là, ce qu'on peut arriver à faire, c'est sur de grandes surfaces?
Oui, bien sûr. On peut envisager, cultiver, comme nous l'avons démontré sur de petites surfaces ici, des territoires désertiques et je pense à des contrées du monde qui sont parfaitement infertiles, le nord-est du Brésil par exemple, certains territoires africains.
Donc en quelque sorte, vous proposez une solution pour de très grands problèmes.
C'est une possibilité. Là par exemple, derrière vous, vous pouvez constater une culture de riz démarrante. Il s'agit d'une variété de rizière, c'est-à-dire qui, à l'heure qu'il est, devrait être sous 40 cm d'eau par exemple. C'est une des possibilités extraordinaires du compost de broussailles.
Mais est-ce que ça coûte cher?
Non, justement pas, le compost de broussailles. La broussaille, on en trouve partout sur notre planète. Il y a une possibilité extraordinaire, un potentiel énorme.
Nicolas Braille, c'est la voix de Jean Pin que l'on vient d'entendre. Vous la connaissiez, sa voix?
Oui, je la connais. J'ai la chance d'être accompagné par son neveu, Étienne Bonvalet, d'équipe Jean Pin. Et donc, on parle souvent de ce personnage qui est en fait un rock, une personne qui a ouvert une voie possible.
Et c'est vous, quand vous commencez à marcher ce 22 décembre, quand vous avez cette révélation, vous êtes en quelque sorte influencé par cette lecture de Jean Pin et par ce que vous avez lu sur le compost de broussailles.
Voilà,
vous parlez de technique oubliée, c'est ça qui se rappelle à vous.
C'est vraiment ça, en fait. Je m'aperçois que malheureusement, on aborde la broussaille comme quelque chose de néfaste, d'envahissant.
Oui, d'ailleurs, le mot broussaille a une connotation, ça sert à rien, quoi, à part nous embêter.
Tout à fait. Et ben, c'est le contraire. Et c'est là que c'est intéressant, parce que si on se penche un tout petit peu sur la vie qui a été créée sur cette planète, nous avons les 7 cm de la couche superficielle du sol qui génèrent plus de 90% de la vie de cette planète. Et ça a été oublié, ce mot humus et ce qu'a dit Jean Pin sur la capacité à la broussaille à créer de l'humus, c'est ce lien qui nous manque dans notre transition actuelle. C'est-à-dire qu'en fait, on a... même en France, les capacités de générer suffisamment de sol vivant pour relancer toute une activité oubliée, perdue, et surtout de la vie dans nos vies. C'est vraiment essentiel de comprendre ça.
Parce que les qualités de ce compost sont extraordinaires.
Tout à fait. En fait, vous accélérez le temps, vous condensez la matière, vous la ciselez, ouais, et vous pouvez gagner des dizaines d'années grâce à quelques centimètres de compost de broussailles.
Mais gagner des dizaines d'années, pourquoi faire ?
Lorsque vous faites un potager, vous avez toujours tendance à gratter le sol, à vouloir déstructurer, décompacter. Ça, c'est pas votre travail. Le travail de la faune du sol, c'est d'utiliser de la matière ligneuse provenant de la forêt ou de broussailles pour générer suffisamment de vie pour que l'ensemble de la faune du sol décompacte ce sol et le rende fertile.
Donc, et ce compost permet ça.
Tout à fait.
Permet à la terre de devenir fertile et plus rapidement, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Un jardinier jambin, c'est quelqu'un qui est dans un hamac avec un chapeau. C'est pas quelqu'un qui gratte le sol. Et par contre,
ça pousse tout seul, c'est ça ?
Oui.
Par
contre, l'énergie de transfert de cette énergie forestière vers les sols, c'est là où il y avait quelque chose à résoudre. C'est-à-dire qu'il y a Jean a justement abordé ce rapprochement. Il va falloir mettre plus d'énergie à constituer du broyat plutôt que de cultiver à proprement dit le sol. Et c'est là où il y a quelque chose qui n'est pas transmis, c'est que l'humus vient de la forêt. Et c'est la forêt et le sous-bois forestier qui génèrent le plus de matière sans toucher aux arbres.
Ce qu'il faut dire, c'est que tout ça, ça a été découvert dans les années 70, oublié, et c'est en train d'être découvert. Mais Nicolas Braic, vous êtes un amateur de science-fiction, et vous comparez cette broussaille, donc que vous voyez comme pour la première fois ce 22 décembre 2009, vous la comparez à l'épice dans le roman de science-fiction Dune.
Un commencement est un moment d'une délicatesse extrême. Sachez donc que l'on est en l'an 10191. À cette époque, la plus précieuse substance de l'univers est l'épice, le mélange. L'épice accroît la longévité. L'épice amplifie le champ de conscience. L'épice est vitale au voyage dans l'espace. Ah oui, j'oubliais de vous dire, l'épice n'existe que sur une seule planète dans tout l'univers. Désolée, aride, cette planète possède de vastes déserts. Cette planète, c'est Arrakis, connue aussi sous le nom de Dune.
Nicolas Braic, vous êtes un grand fan de Dune, hein, c'est ça ?
Oui, en fait, ce film, on va dire, m'a vraiment marqué dans une notion de compréhension globale d'une ressource. Et si on remplace le mot épice par broussaille ou matière ligneuse, on s'aperçoit que oui, ça donne plus de sens, ça donne de la longévité de vie, ça donne, on va dire,
comme l'épice dans Dune,
de l'énergie. On arrive à, en fait, lorsqu'on met en tas cette broussaille, à chauffer des cuves, hein, toute ma ferme est autonome en chaleur, et un tiers de la broussaille française rendrait autonome l'ensemble des foyers français en chaleur.
Donc on a du mal à y croire.
On a du mal à y croire, et c'est bien le problème. Je pense que moi ce qui m'a vraiment choqué dans cette approche, c'est que j'ai eu l'impression qu'on m'a enlevé un héritage, qu'on m'a interdit l'accès à cette notion. On a l'impression qu'au niveau énergétique, ça appartient qu'à certains, et que les ressources alimentaires et énergétiques sont gérées par des personnes qui sont découplées de la vie réelle, alors que ça nous appartient à tous. Et je pense que cette initiative, et ce que j'essaye d'apporter dans la continuité de ce qui a été fait avant, c'est de rendre disponible ça, et de surtout au moins de le faire connaître, essayer de se dire, oui, il y a une autre voie possible. Oui, l'énergie fossile est finie, mais la broussaille est quasiment infinie. Lorsqu'on coupe une broussaille classique, elle met 7 ans à repousser, mais vous n'avez rien fait pour qu'elle repousse. C'est la même notion que l'épice dans Dune. C'est-à-dire qu'en fait, on a cette capacité sur cette belle planète, hein, nous on est la planète Dune, à avoir une ressource infinie, disponible et qui n'attend que nous. Cette broussaille, c'est la clé. C'est elle qui va nous permettre de passer cette transition compliquée. Et elle est disponible partout sur cette planète. Et lorsqu'il n'y en a pas, on peut la capter, elle peut se déplacer par sa propre énergie. Rendez-vous compte, le pétrole a une densité énergétique très importante, mais il permet de déplacer du pétrole par sa propre énergie, mais la broussaille également. Si vous mettez un porte-conteneur rempli de broussailles et vous mettez des stirlings à l'intérieur de
cette... C'est quoi des
stirlings ? C'est des moteurs qui fonctionnent par masse, donc air chaud, air froid, ils vont entraîner l'hélice du bateau. C'est-à-dire que cette broussaille qui va composter va permettre de bouger par sa propre énergie, sans déperdition, c'est-à-dire que cette chaleur, en fait, elle est disponible, mais elle n'affaiblit pas les qualités intrinsèques du compost de broussaille pour créer du sol. C'est-à-dire que la finalité, c'est toujours faire du sol vivant, mais au passage, on peut en faire plein de choses. C'est ça qui est fantastique.
C'est incroyable, hein. Ouais. Et je crois que Jean-Pin, il faisait marcher ça à deux chevaux, hein, avec
voilà.
son compost.
Alors lui, il a fait du gaz de broussaille. Moi, je suis moins penché sur ces travaux-là. C'est envisageable. Donc ça consiste à créer du méthane. Pour moi, c'est un petit peu gênant parce que les process pour aller jusqu'à la méthanisation déstructurent un peu trop le produit. Et après, pour les sols, c'est moins efficient.
Donc vous ne ferez pas marcher votre voiture au compost de broussaille?
Non, je pense qu'on peut faire déjà avec la chaleur pas mal de choses. Déjà, si on chauffe, c'est très bien, sans parler de se déplacer. Et puis après, par contre, on peut aussi créer donc ce qu'on a mis en place, de la protéine de bois.
Ah ça, on va en parler.
D'accord.
On n'en parle pas tout de suite, d'accord ?
Pas de soucis. Dream of a land my soul is from. I hear a hand strong on the drum. Shades of delight go you. Reaches the night. Afro, Afro blue.
Une journée particulière. Zoé Varier sur France Inter.
Nicolas Braic, vous êtes avec nous jusqu'à 15h sur France Inter. Quand vous revenez ce 22 décembre 2009 de votre balade dans la montagne, que vous revenez de cette révélation que vous avez eue en vous promenant, vous essayez tout de suite, c'est ça qui est formidable chez vous, vous essayez tout de suite de mettre ça en pratique. Et alors, vous prenez une serpette et vous vous mettez à couper du buis.
Encore du travail ? Du travail, encore du travail. Encore du travail, du travail, encore du travail.
Et là, ça se laisse pas faire du tout. Hein, vous vous rendez compte que le buis, avec votre petite serpette, en 30 minutes, vous arrachez rien du tout.
Voilà. Et je me dis, oulala.
Il y a un problème.
C'est-à-dire,
mon idée, elle est bien belle.
Elle est bien belle, mais je m'aperçois que je m'attaque à quelque chose de bien plus grand que moi. On est sur des chantiers pharaoniques. J'exploite 250 hectares, mm-hmm. donc 250 terrains de football, sur lesquels il y a des brebis et des cochons. Et j'ai besoin d'ouvrir ces milieux pour ces brebis et pour ces cochons. Et là, je me dis, bon, alors il va me falloir 15 vies, peut-être 20.
Pour enlever cette broussaille.
Eh oui. Et surtout que ça repousse. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand vous la coupez au ras du sol, ça repousse tout seul. Hein. Ce n'est pas pour éradiquer, hein. C'est très important. Il faut raisonner ça comme une culture.
Ouais, c'est ça. Vous voulez couper la broussaille pour en faire du compost.
C'est ça. Et donc là, je me dis, oulala, il va falloir que je change le fusil d'épaule.
Et alors, comment vous changez votre fusil d'épaule? Vous vous dites, c'est moi qui vais construire une machine. Et là, ça, c'est le bruit de votre machine. Mmh. C'est la machine que vous avez construite. Qui me fait penser à une machine de Mad Max, moi, personnellement.
En fait, je suis parti sur la main humaine. J'ai inversé. Beaucoup de personnes partent sur des machines pour récolter la matière ligneuse. On raisonne comme un bulldozer. C'est-à-dire qu'on est sur des lignes et puis on éradique tout, on casse tout.
Ouais.
Moi, j'ai dit non, on va inverser l'histoire. Je vais faire une main humaine géante.
Ouais.
Parce que, en fait, je m'aperçois que dans les cailloux et tout, il faut une main.
Donc, vous avez un grand bras comme ça.
C'est ça.
Avec une grande main.
Mmh.
Qui fait quoi?
Qui est en fait un sécateur qui va couper au ras du sol, y compris dans les cailloux.
Ouais.
Il va récolter donc comme une cueillette.
Ouais.
En fait, on fait de la cueillette de buis.
Ouais.
Et une fois qu'on l'a dans la pince, on va le mettre dans un broyeur qui, lui, va le ciseler en petits bouts avec un angle très particulier qui permet d'aérer, de faire des étages. Et ces étages vont permettre à ces petits champignons lignifages de commencer à dégrader cette lignine pour la rendre disponible au sol. Et donc faire en fait un habitat magique pour toute cette vie.
Mais dites-moi un truc quand même, vous n'êtes pas mécanicien, comment vous vous y prenez quoi? Vous prenez votre marteau, vous commencez à essayer de bricoler, géotrouve-tout, enfin, j'essaie de vous imaginer quand même.
En fait, je regarde ce qui existe et je le détourne. J'observe, je vois sur les bords d'autoroute des machines un peu particulières, des mécalacs, et où je vois qu'en fait ça produit un bras humain, il y a comme un biceps, il y a un parallélogramme.
Ouais.
Je me dis, oulala, ça c'est intéressant.
Et donc après vous mettez à dessiner?
Voilà, alors là on est parti sur une phase un peu particulière, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal d'étapes.
Hein. Ouais.
Et construire un sécateur qui peut couper du buis, donc c'est comme récolter des barres de fer au milieu de cailloux tranchants. c'est quand même un petit peu... Ouais, Mad Max, vous êtes pas loin.
Ah voilà, et, ça me plaisait Mad Max.
Et de l'autre côté, trouver donc cette capacité à aller chercher à... On va dire, il faut avoir la force de rentrer dans un bosquet. Donc, on reproduit donc ce bras et on dessine un sécateur. Enfin, voilà, moi, je fais un petit peu de 3D Studio Max et puis je me renseigne sur ce qui existe dans le monde. Hein, et je m'aperçois qu'il y a des choses qui ont été faites, mais que c'est pas tout à fait ce que je veux.
Donc, vous l'adaptez.
Voilà. Et c'est ça, en fait. Toute cette aventure Buxor, c'est regarder ce qui existe et puis le détourner pour arriver à quelque chose qui est reproductible. C'est
d'accord.
Vraiment ça.
Vous et avez donc, mis combien de temps à la créer, cette machine?
Alors, j'ai démarré en 2009, commencé vraiment à être opérationnel en 2014.
Ouais, c'est ça, vous êtes pugnace, quoi.
Ouais.
Vous êtes pugnace, vous lâchez pas, quoi, quand vous avez une
pas
idée.
Ça a fait peur, hein, parce que quand vous allez voir même des banquiers ou des investisseurs et que vous leur expliquez que vous allez créer quelque chose qui n'existe pas pour un produit qui ne se vend pas et qui n'existe pas sur un marché, on vous regarde un peu
bizarrement.
Sachant qu'en plus, mes
on
machines...
Vous a pris pour un doudingue, non?
Oui.
Genre, j'ai eu une révélation dans l'Arzac en voyant
compliqué.
Le soleil sur le buis.
C'est ça.
Hein, un peu fêlé.
Oui, je pense, oui.
Mais est-ce que tout
c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que c'est... maintenant, on va commencer à se dire, c'est pas si bête que ça.
Ah ça, j'en suis sûre, c'est pour ça que vous êtes là. Mais est-ce que personne, Nicolas Braic, n'a compris que si vous aviez eu l'idée d'inventer cette machine un peu bizarre, cette espèce de grand bras qui n'est pas un grand bras comme les autres, c'est parce que vous étiez un geek, un joueur, un grand joueur d'un jeu que vous aimez passionnément,
oui,
qui s'appelle World of Warcraft.
Ouais. En fait, il y a un lien entre la gestion de la ferme et ce type de jeu de plateau.
Nous n'avions que faire des anciennes prophéties. Fous que nous étions, nous n'avons cessé de nous haïr. Et depuis toujours, nous n'avons cessé de nous battre. Jusqu'au jour où une pluie de feu s'est abattue sur nous et qu'un nouvel ennemi a surgi. Nous sommes à présent au seuil de la destruction. car le règne du chaos est annoncé.
Vous hochez la tête, Nicolas Braillet, en écoutant cet extrait de World of Warcraft.
Malheureusement,
qu'est-ce qui vous fait hocher la tête ?
Mais écoutez, j'ai cette chance d'être accompagné par des gens d'exception comme Philippe Desbrosses, Claude Delidia Bourguignon, Pierre Rabhi. Et lorsqu'on discute, moi je suis le jeune qui amène l'espoir, mais je m'aperçois aussi qu'on a allé trop loin, vraiment Zoé. On se doit de prendre maintenant les clés. Et malheureusement, la COP21 nous l'a démontré, ce n'est pas assez. C'est-à-dire que ça va venir de nous, ça ne va pas venir d'institutions si on est accompagné.
On est trop loin dans quoi, Nicolas ?
En fait, on a détruit ce qui nous rendait vivants. Les sols. C'est vraiment, c'est la flamme, c'est la petite étincelle que vous avez au fond de vous. Si vous mangez uniquement des aliments qui poussent sur de la mousse avec des produits, ça va pas être possible. Donc, si on ne prend pas ça vraiment au sérieux aujourd'hui, il va se passer la période du chaos.
Comme le disait World of Warcraft. Voilà. Mais excusez-moi parce que je suis pas du tout une geek. Expliquez-moi en quoi ce jeu, vous a aidé.
En fait, ces
vous
jeux.
Vous a inspiré.
Ces jeux, c'est un vrai cas de société. On estime qu'on est à 11 millions d'années humaines jouées sur ce jeu.
D'accord.
11 millions d'années humaines. Les gens vont se réfugier dans ce monde parce que ce monde offre des possibilités qu'ils ne voient pas dans la réalité.
Dans World of Warcraft.
Oui. En fait, on va se cacher quelque part et j'ai en effet partie. Et j'ai réussi à m'extraire de ce monde-là parce que j'aurais pu m'y perdre. Vraiment. Ce qu'on appelle les geeks n'ont plus de conscience de la réalité. J'ai eu plusieurs aventures, mais une assez jeune où je jouais un jeu qui s'appelait Diablo, qui est aussi pas édité par la maison Blizzard, où je me suis retrouvé à la boulangerie à vouloir payer avec mes pièces en or du jeu.
Ouais.
Et j'avais 13 ans ou 12 ans.
Ouais.
Donc il faut bien se rendre compte que ça peut aller très loin hein, dans la psychique humaine. Mais de l'autre côté, moi je me suis servi de cette force pour transférer cette capacité à créer un monde dans la réalité. Et je pense que c'est un appel que je lance un petit peu à tous ces geekers, c'est qu'il y a une possibilité en fait de créer leur propre monde. Ce qu'ils vivent dans les jeux, ils peuvent le faire dans la réalité et ça va aider l'humanité.
Et c'est ce que vous faites vous, c'est-à-dire que vous êtes sorti de l'univers de World of Warcraft.
Tout à fait.
Pour créer votre univers à vous qui n'est pas un univers imaginaire, qui est dans le Larzac, avec les cochons, la broussaille, le compost de broussaille. Ça, c'est votre monde. Et c'est peut-être le monde de demain.
Tout
ce n'est pas un monde imaginaire. C'est ça?
Tout à fait. C'est ça. En fait, j'ai réussi à recréer mon jeu.
Ouais.
Et qui va, j'espère, aider des générations futures. Et qui est, en plus, vraiment ludique, amusant. Il faut bien comprendre que ce n'est pas un bagne. Lorsque vous prenez votre vie en main du bon côté et que vous allez avec, tout est plus facile, tout est plus beau et vous vous levez le matin avec le sourire. C'est-à-dire que travailler 15-16 heures par jour, ce n'est rien. Et ce n'est plus du travail, c'est de l'amusement. En fait, je joue toute la journée.
Vous jouez toute la journée à créer du compost de broussailles, c'est ça ?
C'est
avec
ça.
Le buis qui est devenu endémique sur le plateau du Larzac.
C'est ça.
Pour en faire un compost qui vous permet de nourrir vos cochons et de pouvoir être chauffé chez vous.
Tout à fait.
Totalement, c'est ça ?
Ouais. On va très loin dans la transformation, c'est-à-dire que voilà, là on élève avec Gilles Anula, on élève des larves qui vont manger ce broyat qui vont créer donc de la nourriture complète, lipides, glucides, vitamines.
Pour les cochons ?
Oui, pour les cochons, à partir de la broussaille, c'est-à-dire qu'on crée de la protéines ou un aliment complet à partir du bois. Ça n'était jamais fait. Et en fait, on va de plus en plus loin dans les ateliers. Et tout ça avec cette idée de reproductibilité. Voilà. Et l'idée aussi de peut-être faire un centre agroécologique pour expliquer tout ça.
Oui,
pour,
c'est ça, parce
pour essayer
que faut
de
expliquer.
Diffuser, pour essayer de faire comprendre et de reproduire à d'autres échelles sur l'ensemble du globe.
De faire comprendre que le buis ou la broussaille, ça pourrait être le pétrole de demain.
Tout à fait. Là, toute broussaille, c'est ce qu'a dit Jean Pain. On a cette chance sur cette planète qu'il y a beaucoup de zones où il y a trop de broussailles, on peut la mutualiser et puis l'utiliser à bon escient, y compris sur des zones semi-désertiques, voire désertiques, pour recréer de la vie.
Pour ressusciter les terres
oui.
mortes.
Et en fait, on replante de la broussaille avec ce broyat, vous voyez. En fait, on va pas planter des légumes.
Non.
On va d'abord créer une zone de broussailles qui va générer de la matière pour refaire des légumes.
D'accord.
C'est-à-dire, en fait, on recrée un petit peu l'utopie de refaire des forêts, mais par la broussaille.
Et là, vous recréez du sol vivant.
Tout
c'est
à
ça
fait, c'est ça.
Vous redonner de la vie au sol.
Voilà. J'ai cette chance d'être accompagné par des grands domaines de champagne qui eux aussi se posent ces questions sur le goût et ainsi de suite. Et ils utilisent cette broussaille pour...
Ce compost de broussaille
ce
que
compost
vous,
de broussaille
vous
pour générer un raisin de très grande qualité organoleptique. C'est vraiment, c'est la clé. Plus vous avez un sol vivant, plus qui pousse dessus et plein de vie et au maximum des capacités génétiques de la plante.
D'accord, donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est que ça permet au sol de redevenir vivant.
Tout à fait.
Et c'est pour ça que vous êtes soutenu par Claude et Lydia Bourguignon.
Tout à fait.
Qui n'ont pas cessé d'alerter la planète depuis 40 ans sur l'appauvrissement de nos sols.
On n'a pas de sol sur les autres planètes qui nous entourent. C'est-à-dire, il y a des véhicules spatiaux qui ont été étudiés, les planètes du système solaire. On trouve de l'eau, on trouve de l'atmosphère, mais il n'y a qu'une seule qui a un sol, c'est notre planète. Et c'est là qu'on voit que les anciens ont eu une approche assez remarquable. Ils ont appelé notre planète la Terre, et ils ont parfaitement raison. Parce qu'à cette époque, ils avaient une approche qualitative des choses. S'ils avaient une approche quantitative comme nous, ils auraient appelé notre planète la mer, puisque 70% de notre planète est couverte d'eau. Et ils l'ont appelé la Terre, et ils ont eu raison, c'est la caractéristique de cette planète. C'est donc un milieu tout à fait extraordinaire, qui part de deux milieux tellement différents, le monde organique est surtout formé de carbone et le monde des roches surtout formé de silice, et ils trouvent le moyen de s'attacher ensemble pour former ce milieu unique au monde qui est le sol. Quand vous avez une poignée de terre dans la main, vous avez des milliards de microbes dans la main. C'est aussi riche que votre intestin comme milieu. La vie existe depuis 3 milliards d'années parce qu'elle a inventé une chose remarquable, elle recycle tout ce qui la traverse. Si elle n'avait pas inventé ça, la terre se serait couverte d'une couche d'excréments et la vie se serait arrêtée. Mais la vie recycle tout et le monde de ces microbes dans le sol reprennent les substances, les rendent à nouveau assimilables aux plantes, les plantes vont refaire des feuilles avec, ces feuilles vont retomber, vont redonner de l'humus, etc. C'est un cycle qui dure depuis 3 milliards d'années.
C'est Claude Bourguignon qu'on vient d'entendre, hein, donc qui est un ingénieur agronome français. Avec sa femme, ils étaient tous les deux des anciens de l'INRA et ils ont fondé un laboratoire indépendant d'analyse des sols. Ça fait, je le disais au début, c'est une archive qui date de 1994, donc ça fait plus de 40 ans que les Bourguignons s'échinent à dire le danger qui nous pend au nez. Ils ne sont pas entendus. Est-ce que vous, on vous entend ?
Alors moi, je pense que j'ai un angle d'attaque un peu différent. Je suis un promoteur du goût, de l'excellence du goût. Et ça intéresse beaucoup de gens.
Oui, c'est-à-dire les cochons, le champagne.
Tout à fait.
C'est ça.
Et en fait, par le goût, je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à capter l'attention des gens. Il faut capter l'attention. Un sol vivant, c'est pas très glamour. Ça parle pas beaucoup. Il y a des bébêtes dedans, ça grouille. Ouais. C'est pas très...
Vos petits verres,
on marche dessus,
ça, c'est
bon,
génial.
Bref. Ouais. Mais si on dit, écoute, si tu es un sol vivant, tu vas manger une tomate, mais tu vas te rappeler toute ta vie. Les framboises de Pierre Gagnère qui sont faites au domaine de Toury, dans la Nièvre, qui sont sur Buxor, c'est des framboises.
Alors Buxor, il faut le dire, c'est le compost de broussailles.
Voilà,
c'est votre compost de
broussailles. Buxus aurum, l'or du buis.
Voilà.
Donc Buxor. Et en fait, il y a une explosion de goût sur ces framboises parce qu'elles sont au mieux. Ces framboisiers ne peuvent pas être mieux que dans ce broyat-là. Et donc, les framboises sont d'une qualité exceptionnelle. Nous, ce qui est intéressant à comprendre, c'est qu'on est quelque part en phase, on va dire, d'ouverture. On est sur un marché d'excellence parce qu'il y a énormément d'innovation, énormément d'investissement. Donc, on travaille donc dans des grands domaines maraîchers, vins, et puis sol équestre aussi pour marcher dessus. Parce que c'est une voie possible de développement. Cette aventure-là, il ne faut pas se servir du schéma de Buxor pour la reproduire. Il faut s'investir de ces recherches pour refaire des schémas en circuit plus court, c'est-à-dire où en fait on va récolter la broussaille tout près de là où on va cultiver et avec un engin mutualisé.
En fait, vous nous appelez à récolter la broussaille.
Je pense que c'est vraiment un appel, oui.
Un appel pour que nos sols redeviennent vivants.
Poulet numéro 728120, poulet de Vendée, élevé en plein air 89 jours et 90 nuits. Parmi 380 autres poulets, alimenté avec 75% de céréales, décembre 1998 à l'abattoir de Saint-Fulgent. Électrocuté, vidé, déplumé, lavé, conditionné, labellisé le poulet. Le 11 décembre 1998, je l'ai acheté 52,55 francs chez le boucher chauve rue de la Bastille. Je l'ai mangé chaud le midi, froid le soir, avec une bouteille de vin rouge. Je l'ai adoré, le poulet. Mon poulet, numéro 728 120. Je t'aime, je pense à toi.
Cette chanson de Philippe Catherine, vous la connaissiez ?
Et non, pas du tout. Et donc, je vois tellement un sens. On a oublié que les cochons, justement, la part céréalière, c'est 8% dans son bol alimentaire.
Ouais.
C'est essentiellement normalement de l'herbe. Et moi, lorsque j'ai commencé à aller expliquer ce que je faisais aux autorités agricoles, j'aurais dit, mes cochons, ils broutent. Ils m'ont dit, non, ça broute pas. Nous, dans notre case, ça ne broute pas un cochon. Mais si, ça broute, venez voir. Ah non, ça broute pas. Donc, en fait, le cochon n'existe pas dans les primes agricoles communes, enfin la PAC,
ouais.
Parce qu'il n'est pas associé à une possibilité de manger de l'herbe. C'est ce qui est quand même fou.
Alors c'est ce que font vos cochons ?
Toute la journée.
Alors,
on va dire que c'est 80% de l'herbe et puis le reste, les larves, ça va complémenter. Là, on a encore des céréales biologiques, mais c'est vraiment une alimentation naturelle, ce qu'ils trouvent.
Alors, je vais revenir, je vais tirer le fil de cette année 2009, donc cette année où vous avez eu votre révélation. En 2009, Barack Obama devient le 44e président des États-Unis. Le président Ben Ali est réélu avec 90% des voix. L'anthropologue Claude Lévi-Strauss disparaît. En 2009, le Mexique est victime d'une épidémie humaine de grippe porcine. Le virus H1N1 contaminera la plupart des pays du monde.
Perdu dans les montagnes caillouteuses de l'État de Veracruz, à 300 km de Mexico, le village de toutes les rumeurs, La Gloria. Certains habitants racontent que la grippe porcine est née ici. Pour preuve, ce petit garçon, aujourd'hui rétabli, frappé par le virus, analyse à l'appui. J'ai eu mal à la gorge et aux poumons, dit-il. À l'origine des rumeurs, ces gigantesques porcheries toutes proches du village. Impossible d'entrer, les grilles sont verrouillées, les travailleurs s'éloignent. Federico, un habitant de La Gloria, nous accompagne. Un gardien méfiant relève son identité.
Je pense que les mauvaises odeurs qui sortent de cet endroit ne peuvent pas être absorbées par le corps humain. Autrefois, les gens se portaient bien.
Plus loin, à l'abri des regards, on peut voir ça. Des carcasses de porcs pourris, un manque d'hygiène évident.
Nicolas Braic, je vous écoute.
Voilà l'exemple des dérives du système industriel. On allait au bout. On allait au bout d'une chose qui est malheureusement de plus en plus décrié, mais encore cautionné. Ça paraît logique à tous ces consommateurs d'avoir un droit d'accès à la protéine. Le jambon blanc est un droit, alors que c'est plutôt, on va dire, voter pour un système qui est malheureusement, à toute échelle, néfaste pour l'environnement, pour l'éleveur, pour les animaux. Donc,
et pour nous.
Pour votre santé, mais dramatique. Il faut tout simplement ne pas partir dans les extrêmes, manger de la viande. Nous sommes des omnivores. Il faut juste en manger moins, de meilleure qualité, et savoir d'où elle vient. Alors, on est à Paris, on est dans une grande ville, c'est compliqué, je peux comprendre. Mais il y a maintenant des capacités de se pencher, ne serait-ce qu'une demi-heure par semaine là-dessus, se faire livrer par des systèmes fantastiques. Moi, j'accompagne deux jeunes filles qui ont des idées comme Terroir Mon Amour, qui permettent à des consommateurs d'accéder à des produits comme moi, qui sont normalement très durs à atteindre. Il y a des sites, moi j'ai un site où on peut acheter de la viande, mais c'est mettre un peu plus d'attention là-dessus et moins cautionner cette barquette industrielle en solde. Hein, ça, il faut arriver à comprendre ça. Et c'est votre vie va mieux se porter. Et puis vous allez aussi avoir quelque part un sourire lorsque vous verrez ces dénonciations en masse, parce qu'il va y avoir des gros problèmes sur les systèmes d'élevage industriel.
Là, il y a d'autres scandales. Enfin, des scandales, il y en a plein.
Il y
a le lait Lactalis. Enfin,
tout à fait.
Ça n'arrête pas.
Et se sortir un petit peu de ce système-là sans le subir, c'est important. Et c'est faisable. C'est-à-dire que je comprends qu'avant, c'était la facilité, mais maintenant, ça devient faisable.
Donc, il faut le faire.
Oui, et vous allez aider des belles initiatives.
Beat it. I'll do the verses, then I'll do the choruses. One, two, three, four.
Nicolas Braeck, vous vous souvenez que c'est aussi en 2009 que Michael Jackson disparaissait.
Eh oui, une icône en fait, quelqu'un qui a bercé notre enfance avec l'album Bad. Je me revois petit garçon déguisé en Michael Jackson à danser. Et surtout, une personne qui allait au bout de sa vie dans tous les sens du terme.
Vous dites que c'est un joueur.
Ouais,
comme vous.
C'est un vrai joueur. C'est quelqu'un qui n'a pas écouté et qu'on revoit à son parc d'attractions. Je suis désolé, il n'y a pas plus enfant que ce personnage-là. Et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. On reste des enfants. Je pense que je continuerai de jouer toute ma vie. Je continuerai à m'amuser. Je m'amuse avec la vie et la vie s'amuse avec moi.
Oh, quelle chance! Vous reconnaissez la musique ?
Eh oui.
C'est quoi ?
On est, je pense, vraiment sur un beau message d'espoir.
C'est Avatar.
Eh oui.
C'est la musique d'Avatar.
Eh oui. C'est quelque chose qui aussi a été, à dire avec le film Dune, quelque chose qui m'a fait des frissons. Cette possibilité d'immersion dans un monde. Mais moi, je me suis senti un petit peu du côté des humains avec leur grosse machine jaune qui déforestait, qui voulait à tout prix trouver de la ressource et du minerai. Et attention aux dérives. Attention à expliquer aux gens que tout ce qu'on entreprend est cautionné par des personnes qui sont amoureux de cette planète et de ce plateau. C'est-à-dire qu'on est, absolument pas là pour détériorer un biotope. Au contraire, on est là pour qu'il s'exprime encore mieux et qu'il explose de vie. Depuis que je débroussaille, on a de plus en plus d'oiseaux, de plus en plus d'animaux. On a une vie qui explose. On laisse toujours des berceaux intouchés où il y a tout le biotope spécifique des milieux fermés. Mais on ouvre aussi d'autres milieux. Donc, comprendre que mes machines, j'ai eu cette chance d'avoir une petite fille à une visite qui m'a dit...
Qu'on peut visiter votre...
Voilà, on peut faire des visites. Et moi, je faisais cette relation entre ces machines, pour pas qu'elles fassent peur, et les insectes. Et elle m'a dit, moi, je suis pas d'accord, monsieur, pour moi, c'est un dinosaure. En fait, vous avez la tête, le bras, le cou,
vous
les mandibules.
Vous parlez de votre machine pour
oui.
faire le compost de broussailles ?
Tout à fait. Et en fait, cette petite fille, elle m'a scotché parce que elle m'a dit, voilà, moi, je vois une mâchoire, des mandibules, je vois un cou, je vois on va dire des pattes, un ventre, quelque chose qui mâche, hein, qui digère, et puis les hérissons pour faire caca. Elle m'a sorti ça et je suis resté pantois. Je me suis dit, ah, mais elle a raison. Et donc, pour rigoler, on appelle ça les buxosaures,
ouais, hein, d'accord.
Les récolteurs de buxus. Et en fait, oui, cette image est très, très belle parce que on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui finalement, lorsqu'on leur explique tout ça, comprennent que on va essayer de mutualiser quelque chose et que la part machine n'est peut-être qu'une transition. On va peut-être trouver d'autres solutions, mais on parle beaucoup des algues, de cultures, d'éoliens, de transition. La broussaille, c'est quelque chose qui n'est jamais évoqué et qui est bien plus présent sur cette planète. Il y a plus de broussailles que d'algues, hein. Enfin, il y a beaucoup d'algues en littoral, mais si on utilise toute la broussaille à l'intérieur des terres, on a beaucoup, beaucoup à faire.
Merci Nicolas Braeck d'avoir
Merci
passé
Zoé.
Ce début de dimanche après-midi avec nous. Merci beaucoup. Sur le site de l'émission, vous trouverez le lien vers votre site à vous, Nicolas Braeck. Vous trouverez aussi plus d'informations sur les méthodes Jeanpin, le compost de broussailles, enfin bref, des tas d'infos sur notre site internet. Voilà, c'est fini. C'était une journée particulière. Une émission préparée par Rebecca de Nantes, à la réalisation Flora Bernard, à la programmation musicale Djoubaka et à la technique aujourd'hui Mathias Alléon. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter et surtout podcaster cette émission sur le site de France Inter, podcaster pour ne pas en louper une miette. Tout de suite après le flash, vous retrouverez Vincent Josse avec son grand atelier. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, 14h.